Boomerang avec les innocents ce matin. C'est parti. Alors, c'est pas une alerte rouge, c'est pas une façon d'agiter le chiffon rouge, vous me connaissez, je suis pas comme ça, mais je vous donne le fil rouge. De ce mercredi matin, on met de la couleur, c'est-à-dire de la lumière, car on sait depuis nos cours de physique au collège que c'est elle la lumière qui produit, qui absorbe, qui réfracte, qui diffuse les couleurs. Soyons moins blancs comme neige que bleus ce matin, ou vert, tiens, ou rouge. C'est pas tous les jours qu'on a carte blanche pour changer le monde. Voyons rouge, rayons jaune, soyons gris s'il le faut, pouce vert, éléphant rose, fleur bleue, tout sauf le noir, n'importe quoi de lumineux. Et même si tout n'est pas rose, bah donnez-en moi des vertes et des pas mûres, que vous en restiez bleu, vous envoyez des grises, vous franchissiez la ligne jaune, je m'en balance, je veux de la couleur, des poèmes de Maurice Carême, deux petits éléphants, une souris verte, du bleu et blanc, je veux les voyelles de Rimbaud, à noir, au blanc, i rouge, u vert, au bleu, je veux des poésies portraits, des poèmes paysages à la manière des Gunchileux. Et vive les rouges, les verts, même ceux qui mettent du jaune le samedi, tiens, vive ceux qui colorent la vie, le monde, les veines. Vous connaissez la chanson.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard. Alors la foule colore mes veines, chaque jour il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mes invités d'aujourd'hui font surgir la lumière comme la couleur et sont à ce titre bien moins innocents que le nom de leur groupe pourrait le suggérer. Après séparation, retrouvailles, récompense, tournée, leur sixième album, 6,5, sortira dans un peu plus de 2 semaines. Bonjour JP Nataf.
Bonjour Augustin.
Et bonjour JC Urbain.
Bonjour.
Bonjour les innocents, merci beaucoup d'être là tous les deux. Faire surgir la lumière, la couleur, quand on est musicien, par quoi ça passe? Comment on fait concrètement? Par quelle technique, par quel son, par quelle production?
Il faut beaucoup de temps,
déjà.
Surtout. Beaucoup de temps pour savoir déjà quelle lumière on veut mettre dans la chanson. Et encore plus de temps pour qu'elle reste dans la chanson jusqu'à son moment final, qui est le mixage ou le mastering. C'est très long, c'est très long.
Après, il y a quand même le premier geste qui est un geste assez enfantin. C'est-à-dire que si vous mettez un enfant de 3 ans derrière un piano et il appuie et puis il se rend compte qu'il se produit un son et que déjà il y a quelque chose qui existe. Bon, si on me donne un sécateur, je sais pas quoi en faire. Alors que si on prend une guitare, quelquefois c'est pas nous qui décidons. Moi, il y a des matins où je suis pas très bien luné. Et puis, à un moment, on va attraper un instrument, et puis on va mettre ses doigts quelque part, et puis l'accord vous met en accord avec la journée, et puis tout à coup, c'est ça que vous suivez, c'est le fil que vous allez suivre.
Et ça a un sens pour vous, la couleur d'une chanson, ça veut dire quelque chose?
Ah, ouais.
Oui. Mais on se parle pas tellement en couleur, nous, on se parle plus en...
En images, c'est quand même des images.
Oui, des images ou des références de chansons qu'on a écoutées, c'est plus simple. Voilà.
Mais c'est pas innocent pour moi de parler de couleur, vous vous en
doutez.
Non,
j'ai bien.
Évidemment, non, parce que certains groupes sont plus versé dans la mélancolie, voire dans la noirceur. Chez vous, c'est un parti pris, j'ai l'impression.
Il y a de la mélancolie, mais il y a une mélancolie qu'on essaye justement de coloriser, on va dire. Comme une vieille photo. Non, mais moi, je sais que quand j'écris une chanson, j'ai quand même des paysages. Hein. Je suis un peu au cinéma. Je vois quelque chose, je vois une rue. En deux phrases, il faut tout de suite qu'il y ait un décor.
Mais quel arrière-plan obscur est-ce que vous avez l'impression que s'élève votre musique, Les Innocents? Au fond, quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous voyez quoi et qu'est-ce que vous voulez corriger par la couleur?
Ah ben, on est aussi malheureux que les autres. Hein.
Alors corriger, c'est peut-être pas le mot, mais offrir de la couleur entre nous quand on la joue et qu'elle passe après le plus possible quand les gens l'écoutent. Voilà. Corriger, non, je crois que c'est pas le mot parce qu'on est justement, on se pose à chaque fois la question quand on écrit nos chansons au moment de faire un album. C'est et tu crois qu'il faut qu'on parle de ça, voilà, du problème machin dans le monde et on aimerait bien le faire, mais on se sent pas du tout de le faire, donc on finit par chanter des chansons un petit peu mélancoliques avec un peu de cool et donc avec un petit peu de gaieté, de joie avec nos accords.
Il y en a, ouais.
Oui, moi j'ai l'impression que c'est aussi une rapport. Enfin, je reviens à la lumière, à l'image. C'est un truc de focus aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut trouver la bonne distance pour regarder les choses et survoler un peu. Parce que ben, on est exactement comme tout le monde, on se lève avec les mêmes problèmes, on est perméable aux mêmes angoisses en écoutant les infos tout ça. Mais juste à un moment quand on fait de la musique. On sait qu'on a ce pouvoir-là, à un moment... Enfin, moi, j'ai réussi à échapper à beaucoup de mini-drames du quotidien quand j'étais jeune, en écoutant des chansons. Ça me sauvait. Avant d'aller au lycée, il fallait que je sois prêt 10 minutes avant pour avoir le temps d'écouter un single face A, face B. Sinon, la journée commençait mal. Et je vois ce que c'était comme médicament, quoi. Donc, Si notre ambition c'est de fabriquer ces petits médicaments là, il faut trouver la bonne distance pour que ça reste léger, pour que ça reste voilà, que ça puisse vous emporter comme ça, comme une petite brise.
Tu vois, tu nous vois dans la pharmacie, toi.
Ah, l'ostéopathie, la pharmacie, le massage, les soins,
les innocents. Pour ceux qui se poseraient encore la question, ben ça a quand même été ça.
C'est un monde
C'est aussi la chanson préférée des profs de géo et des Bretons. Hein.
Ah oui. Ah oui.
C'est aussi un homme pas comme les autres, un homme extraordinaire. Penataf, JC, Urbain, Les Innocents, à pas revenir sur tous les rebondissements qui ont fait l'histoire de votre groupe. Ce qu'on peut dire, c'est que cet album, c'est le deuxième depuis votre formation, le sixième en tout. Pourquoi l'appeler 6,5? Que signifie ce demi, très félinien?
Ce demi, c'est un petit disque de Noël qu'on avait fait, qui s'appelait Les Innocents chantent Noël. À une époque où c'était pas du tout la mode, enfin c'est toujours pas vraiment la mode d'ailleurs, mais c'était un peu à la manière des anglo-saxons, oui. Qui eux ont pas de problème avec ça. Pas de coquetterie en tout cas, et du coup voilà, c'était un petit exercice de style, mais on avait pris beaucoup de plaisir à le faire. On l'avait fait de façon très très spontanée, très rapide, comme ça.
Puis le 6,5, c'est un peu nous, quoi. Ouais. Je dis, oh tiens, ça pourrait être 6, il rajoute le demi.
Voilà,
c'est comme ça qu'on
fonctionne. Il y en a toujours un des deux qui a un truc à redire.
Mais c'est vrai que ça, quelque part, ça dit aussi votre singularité à tous les deux, et je crois que sur le disque, chacun interprète et joue les chansons qu'il a lui-même composées, c'est ça, pas d'écriture à quatre mains.
Non, cette fois-ci, non.
On était un petit peu chaudés par les... Enfin, là, on n'était pas inspirés, en fait, à tous les deux ensemble. On trouvait pas le moyen de finir une chanson.
Le disque du retour a été très long à enregistrer, à comprendre, il fallait se jeter à l'eau. On avait très envie, ça naissait d'un désir très lent comme ça pendant 10 ans. On se disait, ah tiens, un jour faudrait qu'on remette le couvert. Enfin bon, voilà, il y avait eu un tout truc.
Parce que quoi, qu'est-ce qui vous différencie en réalité tous les deux en tant que parolier, en tant que musicien?
Un peu tout.
D'où l'intérêt de faire un groupe. Je pense qu'à deux,
non, rien à voir.
Alors maintenant, c'est un petit peu, c'est plus simple. Mais justement, on est arrivé à un moment jusqu'au clash du groupe, parce que je pense qu'on était déjà, d'une part, on n'avait pas tellement des rapports d'amitié, parce qu'on était assez, je dirais pas dans la compétition, mais dans l'envie de faire bien, chacun essayant d'amener sa chanson le plus haut possible.
Plus la séduction, qui est quand même nécessaire aussi pour faire avaler à l'autre que ta chanson vaut le coup.
Et puis on voulait toujours voir devant, etc. On n'avait pas le temps de s'occuper
de qui il était, de
l'inviter à manger chez soi. On faisait pas du tout.
Mais il faut bien quand même que vous vous admiriez l'un et l'autre. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'un et chez l'autre?
Il y a un truc un peu magique qu'on n'a pas trop cherché à creuser non plus. Parce que c'était... Moi, je veux dire, quand je rentrais dans une pièce avec une nouvelle chanson... Je sais pas pour Jean-Cri, hein, je parle que pour moi, parce que j'ai eu ce côté enamouré à un moment. Juste, c'était un gars qui m'impressionnait, parce que quand je savais le potentiel qu'il avait à m'émouvoir, à me transporter avec ses mélodies, je sais pas, c'était un rendez-vous, je vais pas dire amoureux, mais enfin, avec ce truc musical quand même qui était assez magique.
Un peu, là.
Si, j'exagère, bien sûr, mais j'exagère. Mais il y a un truc de magie de trouver quelqu'un qui a la même horloge.
Attendez, vous êtes en train d'avoir une déclaration d'amour. On la prend, la déclaration d'amour.
Ben voilà, mais justement, en ce moment, je travaille là-dessus.
On la prend.
C'est bien. Voilà. Je reviendrai alors, parce qu'il faudra me le dire plus souvent.
C'est intéressant que vous parliez de magie, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que ça tient aussi beaucoup aux harmonies que forment vos voix et vos guitares. Qu'est-ce que c'est une harmonie d'un point de vue musical?
Il y a plusieurs sens. L'harmonie des voix, généralement, c'est que au départ, on faisait une chanson, puis on chantait la chanson avec une seule voix, quasiment. Et puis, avec la scène, on s'est rendu compte qu'on aimait bien tout de suite rajouter une tierce, une quinte quand on peut. Donc, l'harmonie, c'est ce qui fabrique un accord.
Par exemple, ça fait pou, 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 pou. Voilà, quand il y a toutes ces notes, on dit, voilà.
Enfin, moi, je sais que d'entendre le timbre de Jean-Cri dans mon dos, on va dire dans le dos de ma voix, ça me rassure.
C'est bien très très bizarre cette émission.
Oui, non, mais oui. Non, mais
ça, j'avais pas prévu ça, Jean-Cri.
Non, mais ça me rassure parce que.
Ils n'ont rien d'innocent.
Non, mais on peut jouer de la musique, c'est une chose formidable, c'est ludique, c'est une élévation. Mais on peut dans un groupe, enfin quand on joue de la musique avec plusieurs personnes, trouver que voilà que les fréquences ou ce qu'amène quelqu'un, c'est pas ce que vous entendez vraiment. Donc on lutte un peu avec. Quelquefois, ça m'arrive de jouer de la musique avec des gens et de faire un effort pour me trouver là-dedans et me dire ah ça lutte un peu avec ce que je suis en train d'envoyer tout ça. Je sais que alors voilà quand je parlais de magie, c'est juste que je crois que nos timbres de voix se complète d'une manière.
Ça, vous l'avez toujours eu ça.
Et c'est pas du travail. C'est pas juste qu'on est parfait. C'est juste que voilà, ça se match bien. On est meilleur à deux, je trouve.
Oui, on l'a découvert. C'est vraiment quelque chose qu'on a découvert sur scène. C'est les voix. Après, on l'a travaillé un petit peu sur le disque, mais je crois que sur scène, c'est comme ça. Je crois que l'homme extraordinaire qu'on écoutait tout à l'heure. Les deux voix ont pris vraiment leur importance sur scène.
Moi je sais que pendant les 10 années où j'ai fait une carrière solo, il y a des gens qui me disaient « Ah, vous allez jouer une chanson d'Ezino, un homme », on me réclamait. Et j'ai aucun plaisir à jouer une chanson des Innocents sans Jean-Cri, mais aucun. Il n'y a aucun plaisir, vraiment.
Alors, c'est qu'il y en a
je
une
me sens
qui
tout nu,
n'est pas du tout en harmonie, qui se sent toute nue et qui n'est pas amoureuse de Jean-Cri dans cette émission. C'est évidemment la culture à son actualité dissonante, Castafiore et fausse, comme jamais. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 27 février?
C'est drôle d'être un outsider, sincèrement. Quand j'ai fait Amour chienne, la totale liberté que j'avais.
Iñárritu, inarrêtable, le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu a été choisi pour présider le jury du 72e Festival de Cannes qui aura lieu du 14 au 25 mai prochain. Ce sera la première fois qu'un Mexicain occupe cette prestigieuse fonction. Auteur des films Amour chienne, Babel, Birdman, The Revenant, Iñárritu a notamment remporté à Cannes le Grand Prix de la Semaine de la Critique en 2000 et le Prix de la Mise en Scène en 2006, Bamos a la Croisette. Li à part, le Centre Pompidou Metz inaugure aujourd'hui l'expo Habiter le Temps, consacrée à l'œuvre de l'artiste, philosophe et poète sud-coréen Lee Ufan. À travers un parcours à la grâce épurée, l'événement propose de revenir sur 5 décennies d'un art minimaliste inspiré par le mouvement japonais Monora. De sculpture en installation, Lee Ufan interroge les relations entre les choses, le temps, l'espace, dans une déambulation, méditation, hypnotique. Très chic. Electro Bueno, dans le cadre de la grande expo électro prévue à la Philharmonie de Paris le 11 avril prochain, le magazine Tsugi vient de révéler que les Daft Punk préparaient une installation inédite, inspirée de leur clip technologique sorti en 2005 et réalisé par leurs soins. La rétrospective qui fêtera les 30 ans du mouvement électro fera intervenir les artistes phares du genre, de Laurent Garnier à Kraftwerk, en passant par Jean-Michel Jarre ou Thom Yorke, du lourd. Et mercredi de couleur, ciné à l'honneur, car aujourd'hui dans les salles, on perd la tête avec Marie Stuart Reine d'Écosse, premier film historique de Josie Rourke sur fond de rivalité royale. On fond pour Celle que vous croyez de Saphine Lebout qui met en scène Juliette Binoche dans une adaptation machiavélique du roman de Camille Laurence. Et sinon, on s'évade avec Les Éternels, magistrale fresque de Jia Zhangke sur la Chine contemporaine en pleine mutation. Que du bon! Et les Innocents, invités de Boomerang ce matin à une 15aine de jours de la sortie de votre 6e album, ou plutôt 6e et demi, ça fait plus de 30 ans que le groupe existe. J.P. Natta, vous en êtes en quelque sorte le père fondateur. Comment est-ce qu'il est né ce groupe, tout compte fait?
C'est un groupe de lycée qui tourne mal, bien quoi.
Et vous vous souvenez du moment où J.C. est arrivé?
Oui, très très bien. Il travaillait dans le même magasin de musique que notre batteur disparu cette année d'ailleurs, qui on a un peu dédié, on a eu une pensée en faisant ce disque, et il est arrivé pour jouer le riff de piano qu'il y avait dans Jody, notre premier 45 tours, que j'avais fait en studio, mais j'avais pas assez de mains pour le faire sur scène, donc Jean-Cri est arrivé juste au début pour ça, et puis après il a fait place nette, comme on dit.
Non. Vous aviez la vingtaine, hein?
Non, mais il
tous les deux.
On était déjà plus vieux.
Enfin, on a toujours été plus vieux.
Oui, la vingtaine.
Oui, la vingtaine.
On est très plus vieux, on a toujours été plus vieux.
Mais non, vous êtes soleil, vous êtes lumière, vous êtes couleur et amour, surtout ce matin. À cette époque, vous pensiez à quoi? Vous saviez déjà?
ça allait être ça, une carrière dans la musique en tout cas.
En tout cas, je pense qu'on n'avait pas peur, on était assez confiants. Penser qu'on ça durerait aussi longtemps, non, on ne pouvait pas le penser. Penser même qu'on pourrait encore aujourd'hui vivre de nos compositions,
oui,
par
c'est
exemple.
Ça.
C'est... Non, je ne pense pas qu'on aurait imaginé.
C'est la pure folie. C'est la pure folie.
On aurait pu s'imaginer être musicien derrière Johnny Hallyday.
Non, mais même que ça, d'être là encore ce matin, que ça intéresse encore les gens, qu'on soit aussi excité quand on termine un disque et tout.
C'est-à-dire qu'en préparant l'émission, on s'est rendu compte aussi que c'était devenu des madeleines, hein, des tubes des années 90.
Non, mais ça aurait pu en rester là. Quoi. C'est super aussi de pouvoir revenir. Enfin, on les a joués sur scène. On voit bien ce qui se passe quand on les joue sur scène. Il y a, effectivement, ça raconte quelque chose à beaucoup de gens. Ils viennent avec leurs histoires. Ils disent, on a joué telle chanson à l'enterrement de mon père. Ça, je me suis marié. Enfin bon, il y a plein d'histoires. Donc ça, c'est hyper touchant. Et puis, on les joue encore. Elles sont vivantes.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez connu tous les deux, même après votre séparation, des grands succès d'estime. La critique vous adore, vous encense, ensemble et séparément. Pourtant, vous l'avez jamais caché. J.P. Latta, vive de sa musique, c'est devenu compliqué. Aujourd'hui.
Ouais, enfin non, c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué c'est compliqué de payer son loyer, en fait, ça, comme une grande partie des gens sur cette planète. Mais par contre, c'est pas compliqué du tout de se lever pour aller jouer de la guitare et dire, je vais gagner ma vie comme ça. Ça,
gagner sa vie dans la musique, c'était plus facile avant.
Ah, oui, oui. Oui, voilà. Mais
c'était plus facile. On était peut-être aussi plus facile. On voyait peut-être aussi plus.
Et c'était peut-être une anomalie aussi.
Les choses avec plus de couleurs.
Non, mais l'industrie du disque, à un moment, a été en over, je sais pas quoi. Enfin, c'était au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que, jamais dans l'histoire de l'humanité, faire de la musique a été un ascenseur social. Enfin, c'est 50 années glorieuses, tout à coup, où il y a eu une industrie qui s'est emballée autour de ça.
Et alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour que ça s'effondre pour vous?
Bah, je pense que...
Bah, c'est-à-dire qu'avec 200 000 vues sur YouTube, on n'a pas de kebab, on nous
a
expliqué.
Oui, non, c'est la notion même de droit d'auteur qui est un petit peu en train de changer. Elle est moins monnayable qu'elle l'a été avant.
Et... Vous résistez à ça?
Bah, non, on n'est pas du tout les plus à plaindre. Enfin, je vais dire, on a du boulot. On arrive à faire, ça fait quand même deux disques qu'on est revenu comme deux vieux qui disent tiens, on voudrait refaire un truc, monsieur. Et puis on nous a dit faites-en un. Après, il a pas marché dinguement, le Mandarine, l'album du retour. On nous a dit faites-en un autre. Donc nous, on est vraiment des privilégiés.
On résiste, on essaye d'éduquer nos enfants pour qu'ils apprécient un objet musical aussi. Mais, c'est quand même une culture qui change. Après, il faut aller avec ce que nous propose le monde. Je peux pas.
Et puis après, on a plein de collègues, copains qui rament à se faire entendre, à boucler un premier disque, à trouver des dates, à pouvoir... les musiciens, on va sans doute repartir avec des musiciens cette fois-ci et pas à deux. Les musiciens qu'on va prendre avec nous jonglent avec 3-4 projets quelquefois.
Et puis vous avez la scène quand même, des spectateurs qui viennent aussi réécouter les albums d'antan.
On est très chanceux. Nous.
Quel espace est-ce que c'est pour vous la scène d'ailleurs justement? Vous disiez que c'est là où vous vous êtes rendu compte de l'harmonie.
Oui, je pense que c'est là où on sait vraiment où on est sur cette dernière tournée après Mandarine. On s'est rendu compte à quel point on pouvait aussi profiter du public. Je pense qu'avant, on était plus dans le...
Ah, carrément.
Mais on avait un petit côté comme ça.
Moi, j'étais jamais vraiment heureux.
On avait eu la pudeur de ne pas vouloir choper... Ça a commencé comme ça, l'émission. Il faut savoir recevoir l'amour. Et ben voilà, je pense que par la scène, ça me paraît en tout cas plus facile, plus immédiat.
Est-ce que c'est pas devenu un espace de résistance aussi, la scène, justement, à cette ère du zapping, à cette ère de l'urgence?
À vrai dire, c'est le seul endroit je reviens à ce que dit Jean-Claude, c'est le seul endroit qui existe vraiment pour nous, parce que nous, une fois qu'on a terminé un disque, on l'écoute plus aussi, on peut l'écouter une fois de temps en temps pour se dire, tiens, je me rappelle plus des accords de cette chanson. Mais ça existe plus, le fait qu'il passe, quelquefois, ma maman, qui est peut-être de l'autre côté du poste, me disait, c'était formidable, vous étiez à telle radio tel jour, je lui dis, non, maman, c'était le disque. Donc il y a quand même ce truc-là, c'est qu'on peut exister quelque part, enfin comme un film, une fois qu'il est fait. Notre chanson passe sur une radio à Toulouse et
mais c'est intéressant,
elle est
là-bas. Nous, juste à préciser, on est que maman ne le vous voit pas. Elle parle du groupe.
Non, vous les innocents. et nous par contre, le seul endroit où on est vraiment, c'est le matin, on monte dans un train avec notre guitare ou dans un camion, et le soir, on est sur scène. Donc c'est là que ça existe.
Pour autant, au tout départ, les innocents, c'était ce que vous vouliez faire de la scène, exister sur scène.
Eh ben non. Non, moi j'aime aussi être dans mon petit sous-marin qui est mon petit home studio. J'y suis très très heureux et chaque fois qu'on fait un album, je dis ah zut, il va falloir aller dans un studio. Chaque fois qu'on finit l'album, qu'on va sur scène, je dis ah zut, il va falloir aller sur scène. Et je crois que je commence à chaque fois les projets avec ah zut.
Ouais, il râle tout le temps.
Alors moi, c'est mais finalement, on est très heureux sur scène. Mais bien sûr, c'est.
Et moi, je pourrais monter sur scène pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, je pourrais me revenir. Vous allez faire l'intégrale de Chantal Goya.
Ne me donnez pas d'idées.
Voilà. Non, mais moi, je suis heureux quand je monte sur scène. Vraiment, c'est un espace de, comment, une sorte de repli pour moi. C'est l'endroit où j'ai peur de rien. Je suis bien. Ça pourrait durer 4 heures.
À la radio aussi. Vous êtes bien. Ce matin,
oui, moi j'ai un syndrome bien. Francis Lalanne, quoi. Il faut qu'il me tire
non,
de scène.
Arrêtez avec ça, là.
Mais t'as arrêté de donner des noms comme ça, là, de tirer à vue.
Je n'ai même trop plus, on est à la radio. Merde.
Non, on va continuer à partager ensemble, juste après, Apache. Tiens, le premier extrait très réussi de votre nouvel album. Vous êtes sur France Inter avec Les Innocents. Vous écoutez Boomang, évidemment.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Innocent, j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'ils ont des têtes de coupables, mais comme tous les Spirou et Fantasio, Tintin et Milou, Véronique et Davina, Simon & Garfunkel et Chen, il y a entre eux une complicité qui invite à la prudence. C'est un petit peu comme s'ils avaient toujours une petite idée derrière la tête, vous savez, l'un avec sa barbichette, l'autre avec ses cheveux poivre et sel, avec leur guitare sur les genoux, ils jouaient pendant le morceau. On a du mal à savoir s'ils s'apprêtent à vous chanter une sérénade ou à vous assommer. J.P. Nataf, J.C. Urbain, des Innocents, invités de Boomerang ce matin pour parler de musique et de composition, ce titre d'ailleurs. Apache, de quoi il est né? Qu'est-ce qui est venu en premier? Quels accords peut-être?
Les accords, je crois que c'est ça.
Et ça commence comme ça.
Non, ça a même commencé dans l'autre sens. La mélodie était inversée sur les harmonies, vous voyez?
D'accord. Ça.
Voilà, après, c'est des puzzles.
Des puzzles?
Oui, après, on doit saluer le travail aussi que fait Dominique Ledudal, Do, notre... c'est pas le troisième innocent, mais enfin, c'est le troisième innocent comme George Martin était le cinquième Beatles quand même. Ça fait un moment qu'il travaille avec nous, depuis Jody quand même.
Oui.
Et donc.
C'est-à-dire depuis le premier 45
32 tours, ans, quoi, ouais. Depuis le premier autoproduit, même depuis donc 84, quoi. Donc, bon, vraiment, il y a de la bouteille.
Et Do, peut-être, il sait... Alors, nous-mêmes, déjà, chacun amène une mélodie à l'autre, et puis l'autre lui fait, ah non, cet accord-là, il sert à rien, là, tu peux couper ta phrase en deux. Et puis après, quand parfois on est d'accord, il y a Do qui vient s'en mêler, Dominique.
Quand vous dites couper ta phrase, c'est couper ta phrase musicale.
C'est trop long, ouais.
Ça peut être aussi les mots.
À quel moment il arrive, le texte, justement?
Alors,
quand on est content de la musique.
À la toute fin.
Ça dépend. Il y a des chansons où je dirais pas tout un texte, mais on peut avoir une musique qui arrive avec des mots. Généralement, ça fait un petit couplet ou un refrain.
Mais on peut jamais aller trop loin parce qu'il y a toujours le risque dans mon cas, par exemple, que Dominique et Jean-Christ arrivent et disent, ouais, mais là, c'est un peu long et tout. Alors, tout à coup, il faut enlever trois phrases et ça veut plus rien dire.
Alors du coup, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est un bon texte pour vous? C'est un texte qui se prête à une mélodie, la plupart du temps?
Exactement, c'est ce que disait Brassens, moi je trouve que c'est un bon texte, c'est la, la, la. Si c'est les trois bonnes notes sur le bon rythme, au bon endroit, quoi. Wa-ba-blou-ba-bling-bang-bang, c'est un super texte, parce que c'est juste là.
Mais parce qu'on a souvent salué, j'ai l'impression, Les Innocents, votre capacité à créer des mélodies prenantes, entraînantes. Chez quels artistes est-ce que vous avez pris conscience de l'importance d'une bonne mélodie? Ça vient d'où, justement? Vous citez Brassens.
Ça vient de ma petite enfance, moi je crois, hein. C'est vraiment...
Oui, quand même toute la pop.
Qui vous dirait,
je pense que c'est comme pop, ça qu'on a commencé à écrire et à composer.
Mais après, des bonnes mélodies, quoi, même des choses de variété que moi j'aimais pas du tout quand j'étais petit à la radio. Je les aimais pas parce que j'aimais pas le style.
Mais vous reconnaissiez.
Ça me plaisait pas. Mais je peux les chanter. Je peux chanter des tas de chansons que j'ai pas aimées sur le moment parce que je trouvais que c'était pas les bons instruments, que le mec avait un pantalon pas d'éléphant, que je trouvais ça ringard. La musique brésilienne, ça me parlait pas, mais je me rends compte au bout d'un moment que les mélodies, elles nous touchaient.
Je crois qu'on est devenu auteur un peu par la force des choses parce qu'on aimait bien que nos mélodies amènent évoquent un sentiment ou amènent quelque chose chez les gens. Et on avait toujours peur que nos mots prennent l'importance sur la musique.
Ouais.
Alors, il fallait que ça sonne. On faisait un petit peu, quand on commence une chanson, je pense que les gens savent qu'on fait souvent du ce qu'on appelle du yaourt, une sorte d'anglais français. Et
c'est une langue que je maîtrise bien, moi, personnellement.
Fort aussi.
Et dans toutes les langues.
Ce qui est quand même très important, c'est que le texte ne vienne pas tuer ce qui est déjà là avant qu'il y ait des mots. C'est comme la petite enfance où quand on parle à quelqu'un qui parle pas la même langue que vous. Moi, si j'écoute Nusrat Fateh Ali Khan ou Cesaria Evora, je comprends pas un traître mot, mais je comprends quand même beaucoup. Il y a quelque chose qui passe que je comprends. Donc voilà, nous, on est sans arrêt en train de faire ce ping-pong-là, en train de se dire, tiens, ma chanson disait déjà quelque chose quand je faisais...
C'est un peu comme si la guitare était une voix, en fait, vous écouter.
Oui,
il y a quelque chose. Et par exemple, quand on faisait Le Monde Parfait, JP chantait un truc...
La mort de my way.
Je sais pas, je crois que c'était quelque chose comme ça.
Ça, c'est vrai que ça n'est pas notre langue, en fait.
Non, mais on a fait pire. Il y a une chanson où je chantais Don't die, I'll call you. Ça veut dire, ne meurs pas, je t'appellerai. Et la chanson finale s'appelle Dandaï à Collioure, et c'est un gars qui fait
la
crête des Pyrénées. Il part d'Andaï et il va à Collioure.
Ah, j'adore l'idée.
Et donc, quelquefois, il y a des obsessions comme ça qui sont des obsessions sonores. Après, il y a des trucs qu'on a envie de dire, mais ça, on arrive toujours à dire des choses dans une chanson.
Vous l'avez dit aux habitants de Collioure ou pas cette anecdote?
Non.
C'est important.
On
n'a
pas joué à Collioure ni à Andaï d'ailleurs.
Peut-être qu'on pourra avoir une petite plaque.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Puis ils seront contents en plus du parallèle. C'est intéressant. Ouais. C'est un titre si beau que vous avez choisi de reprendre ce matin. En direct du studio 521. Ouais, les poèmes de Michel de Terry Moïse disparus.
On a peur.
Et pourquoi ce titre?
Justement, on a peur de ne pas être à la hauteur parce que ce titre, il nous renverse. C'est une très très belle chanson.
Ouais.
Très peu écoutée, je trouve, depuis longtemps. Ça a été un énorme tube.
Dans les années 90, moi j'en étais.
Mais je trouve qu'il n'existe plus, comme si cette chanson était nulle part. Dommage parce que.
Moi j'aimais beaucoup le single d'après qui s'appelait Je serai là aussi, qui était bouleversant aussi.
Cet artiste est parti un petit peu, je trouve, dans l'anonymat.
Puis loin.
Comme on part souvent dans l'anonymat, mais bon, voilà, si on peut juste faire un petit coucou avec ça, c'est bien.
Les poèmes de Michel, Les Innocents, c'est à vous.
Il faut que je prenne mon... Tu peux faire une intro?
Je peux faire une intro?
Excusez-moi,
je voulais m'accorder, j'ai complètement oublié. Michel veut croire
en l'innocence que sa vie ne permet pas. Si jeune, trop mûre, elle connaît déjà la fin des nuits dures. Elle s'écrit une vie pour pouvoir tout changer, changer dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler, voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver, rêver. S'enfuir de tout, le crayon sera sa clé, les feuilles sont issues. Un vers, une rime, les mots s'unissent pour protéger la victime. Il lui faut ces mots pour pouvoir tout changer, changer dans les poèmes de Michel. Les enfants ont des ailes pour voler, voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colombes pour rêver, rêver, rêver. Avec ces mots changer, changer dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler, voler, voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colombes pour rêver, rêver dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler, voler, voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver. Qu'ils deviennent colons dans les poèmes. Les enfants ont des ailes pour voler. Quand la nuit tombe, ils deviennent colons. Rêver, rêver, rêver.
Terry Moïse et ses poèmes de Michel revivent grâce aux innocents ce matin. Merci JP Nataf et JC Urbain d'être venus faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre nouvel album 6 et demi sort le 15 mars, que vous serez en concert notamment le 19 juin au Café de la Danse à Paris, que bien d'autres dates sont à suivre. Je vous ai vu hein, vous sourire comme ça pendant la chanson, c'était assez délicieux. Tout de suite les médias, l'instant M avec Dorothée Barba qui m'entend.
Elle vous entend et vous remercie.
Les poèmes de Dorothée.
Exactement.
C'est à vous avec l'instant M.
À demain Augustin.